Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens, c'est Benjamin et je suis avec mon fidèle et cher cousin Maxime. Salut Maxime.
Salut, bonjour à tous.
Et pour une fois, vous l'entendez peut-être, la qualité est un peu meilleure parce qu'on est ensemble. Maxime est venu me voir à Bruxelles. Merci Maxime d'être venu jusqu'à moi.
C'était sympa.
Et du coup, on a profité de l'occasion pour faire intervenir quelqu'un d'extérieur dans ce podcast, qui n'est autre que mon colloque théologien Philippe. Salut Philippe.
Ouais, moi je viens de beaucoup moins loin, la chambre d'à côté. Bonjour à tous.
Excellent. Philippe, tu peux nous dire juste deux mots sur toi. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Ouais, alors comme dit, je m'appelle Philippe, je suis étudiant à l'IBB, l'Institut Biblique Belge.
De Bruxelles.
De Bruxelles, ouais, exactement, le nom a changé.
Excellent. Et donne-nous deux bonnes raisons d'étudier à l'IBB.
Ouais, alors ce que je trouve bien, c'est les langues bibliques qui sont mises en avant à l'IBB. Ouais, ça m'aide beaucoup à travailler ça de façon disciplinée. Et j'aime beaucoup le cours avec James, c'est le directeur sur la théologie biblique. Ça, c'est deux bonnes raisons pour pourquoi venir à l'IBB.
Excellent, merci beaucoup. Et alors, on va pas parler de théologie biblique dans cet épisode, mais on va parler de... Bah, en fait, je te laisse présenter le sujet et introduire, et c'est Philippe qui va animer la discussion et qui va intervenir pour enrichir la discussion aussi, donc je te passe la parole.
Donc, on va parler de la corruption totale de l'homme. Et donc, dans un premier temps, on se pose la question, mais en quoi est-ce que cette doctrine, elle est importante? Pourquoi on a besoin de bien comprendre qu'est-ce que c'est pour comprendre la grâce? Et donc, je vais laisser la parole aux deux cousins pour répondre à cette question.
Ouais, c'est une doctrine importante d'abord parce que la Bible enseigne et donc on veut être sûr de bien comprendre ce que la Bible dit à ce sujet. On a probablement tous entendu à un moment donné le fait que l'homme est pécheur. On a peut-être appris par cœur Romains 3, 23 à l'école du dimanche, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on doit se demander, mais qu'est-ce que ça signifie réellement et qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les conséquences de ça? L'homme est pécheur, mais qu'est-ce que ça veut dire et quelle est l'étendue de ce péché de l'être humain, de cette corruption de l'être humain? Et en fait, c'est important aussi parce que la manière dont on cerne le problème va façonner la solution qu'on va apporter. Si on dit que le problème de l'être humain, c'est pas qu'il est pécheur essentiellement, ou c'est qu'il est à moitié pécheur, ou qu'il a encore une partie de bien en lui, alors dans ce cas, la solution qu'on va apporter va dépendre de la manière dont on cerne ce problème. Ce sera pas, enfin, l'être humain pourra contribuer une part à son salut, ou pourra faire du bien, ou pourra gagner une certaine justice aux yeux de Dieu. Alors que si on dit que l'être humain, et comme on va le montrer, ce qu'on croit que la Bible enseigne, est totalement corrompu, alors ça montre que le salut est l'initiative de Dieu, que le salut est dû entièrement à la grâce de Dieu et que Jésus est notre seul espoir. Et ça donne beaucoup de sens à ce que Jésus a fait sur la croix. Si on remet en cause le fait que l'être humain est pécheur, en fait, c'est la croix qu'on attaque. Parce que pourquoi Jésus avait besoin de mourir? Pourquoi Dieu avait besoin de devenir être humain, vivre une vie parfaite, mourir à notre place? Ça montre à quel point le péché est grave et à quel point la corruption de l'être humain est quelque chose d'important.
Excellent. Ouais, je pense que... Ce que je dirais par rapport à ça, c'est que c'est vraiment l'importance que dans ce que tu as souligné, c'est le caractère irrémédiable de notre situation et du coup le caractère nécessaire de ce qu'a fait Christ. C'était la seule solution parce que notre problème était comme ça. Et il faut vraiment insister là-dessus parce que si on diminue la corruption de l'homme, on va irrémédiablement, nécessairement, avec le temps, diminuer l'importance de l'évangile ou c'est comme ça qu'on arrive à des discours de type « Ah, il y a peut-être une autre solution où l'homme pourrait se sauver lui-même », c'est parce qu'on n'a pas compris à quel point il était perdu.
Et donc même si ce n'est pas agréable de dire ça et les conséquences que ça a et d'être de réaliser qu'on est totalement pécheur face à Dieu, totalement corrompu et incapable de quoi que ce soit pour gagner une justice devant lui, mais en fait c'est nécessaire, comme tu le dis, et c'est ultimement ça qui apporte le vrai salut.
Je pense que si on devrait montrer ça sous forme d'image, si vous imaginez dans une mer de bonhommes, un qui est en train de se noyer mais qui lève encore la main comme ça pour essayer d'attraper Dieu qui peut le tirer, et un autre bonhomme qui est au fond de la mer et qui est déjà mort, je pense que la vision biblique c'est la deuxième, c'est de celui qui est au fond de la mer, qui est mort, qui peut rien faire, et il y a besoin d'une nouvelle naissance, d'une résurrection. Et donc c'est ça qui enlève tout mérite dans le salut. C'est pas toi qui es en train de te débattre et qui arrive à attraper la main de Dieu pour t'en sortir, mais cette doctrine elle nous montre ça va mettre vraiment en avant la grâce et le fait que c'est une œuvre qui est uniquement faite par Dieu.
Et en ce sens, ce que la phrase célèbre de Spurgeon où il dit que on peut pas séparer une doctrine de la grâce de l'autre, bah là, elle prend vraiment son sens, parce que quand on a vraiment compris le problème, la solution devient évidente, quoi.
Ouais, exactement. C'est pas juste qu'on a besoin que Dieu nous tende la main pour nous offrir le salut, mais c'est qu'on a besoin qu'il plonge au fond de l'océan, qu'il vienne nous donner
Exactement.
une nouvelle vie spirituelle, qui nous ramène à la surface. Et là, on anticipe peut-être un peu la toute dernière question qu'on aura, mais ça donne des conséquences sur notre manière de voir le salut, effectivement. Ouais.
Exactement. Et du coup, se pose la deuxième question, donc dans la corruption totale, qu'est-ce qu'on veut dire par total? Peut-être Maxime, tu peux répondre à ça.
Je pense que par total, je vais peut-être commencer par dire ce que ça ne veut pas dire. Et ce qu'on pourrait comprendre en lisant total, c'est que l'homme est aussi pourri qu'il pourrait l'être, en quelque sorte, que tout en lui est totalement dépravé. Et qu'en quelque sorte, y aurait absolument rien de bon. Mais la Bible parle encore de l'homme comme image de Dieu. La Bible reconnaît que les hommes font des choses plus ou moins bonnes dans l'Écriture. Et même nous, juste en regardant autour de nous, on voit que oui, il y a des bonnes choses qui sont faites. Que pour reprendre ce que disent les théologiens réformés, la descendance de Caïn, elle a inventé les instruments. Donc voilà, il y a des bonnes choses qui sont faites par des gens dépravés. C'est ce qu'on voit en Genèse 4 et qu'on voit un peu dans toute l'Écriture. Alors, on pourrait se demander, du coup, si on dit ça, mais pourquoi on dit encore total? Pourquoi ne pas dire juste la dépravation de l'homme? Et je pense que ça signifie deux choses. La première chose, c'est que c'est irrémédiable. Il n'y aurait aucune partie de l'homme qui serait immaculée et qui pourrait le sortir de sa dépravation. Il n'y a aucune partie sur laquelle il pourrait s'accrocher et qui viendrait soulever toutes les autres. Hein, comme si, par exemple, la volonté de l'homme restait libre ou la raison de l'homme. Voilà, il n'y a rien d'immaculé en l'homme qui pourrait le sortir de là. Et quand je dis qu'il y a, du coup, la deuxième vérité, c'est qu'il n'y a rien d'immaculé. Tout est corrompu, non pas dans le sens où tout est aussi corrompu qu'il pourrait l'être, mais chaque partie de l'homme sont atteintes. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans Romains 3, quand il décrit la langue, le pied, la bouche. Il dit que tout est atteint par le péché, et tout ce qu'on fait, alors il liste tous les membres du corps, mais ce que Paul veut dire par là, c'est bien sûr toutes les facultés de l'homme, en fait.
Ouais, exactement. Et ce texte est frappant. Tu veux dire quelques mots dessus, Philippe?
Ouais, alors le texte, Maxime l'a mentionné, c'est Romains 3, les versets 9 à 18, où Paul, il est en train de conclure une longue section dans Romains où il montre que tout le monde est coupable devant Dieu, et il conclut en disant que, voilà, comme Maxime l'a dit, tous les aspects de l'humain sont atteints par le péché, et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il est totalement corrompu.
Et quand on parle de tout ça, c'est important de préciser qu'est-ce qu'on entend par corruption. Parce que souvent, quand on parle du péché, et la société autour de nous encourage ça, on entend le péché mignon. Voilà, j'ai mangé un chocolat alors que c'était l'heure du goûter et que j'avais dit que j'en mangeais pas, ou j'ai pris une deuxième part de dessert. C'est voilà un petit péché mignon, un écart de conduite pas trop grave. Mais en fait, quand la Bible parle du péché, c'est quelque chose de très sérieux, de très grave, de réel. C'est une rébellion personnelle et profonde de l'être humain envers Dieu, envers le Créateur. C'est l'être humain qui dit à Dieu, non, je veux pas que tu règnes sur ma vie. Je ne veux pas que tu sois le Dieu de ma propre vie, je veux être indépendant, je ne veux pas de toi. Et on doit réaliser que l'être humain fait ça à Dieu, l'être le plus important de l'univers. Et ça nous montre que ce péché de l'homme, cette corruption, elle est réelle. C'est un grave problème, c'est un sérieux problème qui, en conséquence, appelle un jugement de la part de Dieu, la colère de Dieu. Donc, quand on parle de ce sujet, on est en train de dire, en fait, le fait qu'on soit totalement corrompu, dans un sens, on n'en parle pas à la légère, c'est sérieux. Ça nous met dans une situation dans laquelle. Ben oui, on mérite un jugement, on mérite un jugement éternel, mais aussi de laquelle on ne peut pas sortir. Et ça montre vraiment qu'on est dans une voie sans issue.
Ouais, ce que tu me dis, ça me fait penser que ouais, non seulement la dépravation totale explique la croix, mais explique aussi l'enfer, en fait. Que peut-être que des gens ont des problèmes avec l'enfer parce qu'ils n'ont pas compris la gravité de la faute de l'homme aussi. Ouais, je pense que mal comprendre ça impacterait aussi cette doctrine.
Ouais. Et comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas si on a Philippe, j'anticipe peut-être un peu tes questions, mais tu me corriges si jamais. Mais donc ça ne veut pas dire que l'être humain, en affirmant ça, ça ne veut pas dire que l'être humain est aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Merci Seigneur, que Dieu retient le mal dans ce monde. Et on pourrait faire un épisode là-dessus, mais on voit la
Une
grâce
grâce commune,
commune,
on appelle.
exactement la grâce commune, ouais, où Dieu manifeste cette grâce, pas une grâce salvatrice, mais cette grâce envers tous les êtres humains, qu'ils soient bons ou méchants. Et donc ça, c'est une réalité. Mais ça veut dire que, enfin, chaque être humain. En substance, comme il est dit dans Romains 3, il est dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, au verset 10, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On peut se dire, mais comment est-ce que l'Écriture dit qu'aucun fait le bien, et pourtant on voit du bien qui est fait, même Jésus qui dit aux Juifs, je pense c'est dans Matthieu 5, ou je sais plus, dans Matthieu, il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mauvais comme vous l'êtes, Je pense pas que c'est Matthieu 5, mais c'est dans Matthieu. Donc l'être humain peut faire des bonnes choses, et comme tu le disais, mais peut-être une petite analogie aide. Et alors là, Philippe, tu vas me corriger si j'explique mal cette analogie, cette illustration. Mais je l'avais entendu il y a quelques années, ça m'avait beaucoup aidé. Cette aide est imaginer voilà, des pirates enfin des marins qui vont sur un bateau. Ils sont avec le roi et avec plein de sujets du roi sur ce bateau. Ils sont en train d'aller en direction, je sais pas, d'une conquête d'un pays magnifique. Bref. Et tout d'un coup, les marins se rebellent contre ce roi. Et ils tuent le roi, ils balancent tout l'équipage à la mer, ils prennent possession du bateau, et ces marins deviennent des pirates, en fait. Ils sont vraiment méchants, cruels, etc. Et ils changent de direction le bateau, ils vont dans un autre endroit pour s'acquérir tous les trésors, etc. Et pour en prendre possession. Et donc, peut-être que vous débarquez sur ce bateau après que tout ça ait lieu, et vous voyez ces marins, ces pirates, qui sont très gentils entre eux, qui semblent avoir une bonne morale. Ils se cèdent les uns les autres, ils ont des paroles gentilles, vous dites la vie est belle à bord du bateau, mais ils font vraiment des bonnes choses. Mais en fait, quand on prend le plan plus large, quand on regarde vraiment le plan large de ce qui s'est passé, on voit que ces marins, le bien qu'ils font s'inscrit dans le cadre d'un mal profond, d'un mal terrible, que leur bateau ne va pas dans la bonne direction, et que cette direction montre la rébellion qu'il y a eu. Et c'est la même chose avec l'être humain. Le bien qu'on fait, le bien que l'être humain peut faire en étant non régénéré, s'inscrit dans le cadre de cette rébellion
Ne
envers
va pas
Dieu.
dans la bonne direction, quoi.
Exactement. Et l'être humain n'utilise pas la vie comme elle devrait être utilisée pour glorifier Dieu. Comme on voit dans Romains, Dieu s'est révélé aux êtres humains de manière générale par la création, mais qu'est-ce qu'ont fait les êtres humains? Ils lui ont pas rendu la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils l'ont rejeté. Et donc, ouais, ça peut nous aider à comprendre.
Ouais, je pense que là, il y a un verset dans Romains 8 qui, je trouve, met bien ça en évidence. C'est le verset 8 du chapitre 8 qui dit que ceux qui sont animés par leur nature propre, donc ceux qui sont sous leur ancienne nature, ils peuvent pas faire ce qui plaît à Dieu. Et c'est dans ce sens-là, les pirates qui sont sur le bateau, ils ont une vie orientée sur eux-mêmes et tout ce qu'ils font, ils le font nullement pour la gloire de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que bah, tout ce qu'ils font, ça peut pas plaire à Dieu. Pour nous, ça peut paraître comme étant quelque chose de bien.
Mais c'est vraiment entaché de mal.
Exactement, ouais.
Ouais.
Ouais. Donc je pose la question, mais ça implique quoi, ouais, qu'est-ce que ça implique pour le salut, cette doctrine? Ouais.
Ouais. Je pense, si on revient à l'image que tu as donnée au début, elle est frappante, hein, de dire, mais quel est le problème de l'homme? Est-ce que l'homme est juste en train de se débattre à la surface de l'océan? Ou est-ce que l'homme est mort au fond de l'océan? Et comme on l'a mis en avant avec des textes comme Romains 3, ou même on pourrait citer Éphésiens 2, où Paul dit, il écrit à ses chrétiens, et il dit, mais en dehors de Christ, vous étiez morts, morts spirituellement. On voit que l'être humain est mort, il est au fond de l'océan, incapable de bouger, incapable de remonter à la surface lui-même. C'est-à-dire que ce qu'on a besoin, c'est pas juste d'un, enfin, l'être humain n'a pas juste besoin d'un pansement en raison de sa corruption, mais il a besoin d'un changement de cœur, il a besoin d'une nouvelle vie spirituelle. Et cette nouvelle vie, seul Dieu peut la donner. Ce passage de la mort à la vie, seul Dieu peut l'accomplir. Et c'est là où ça implique, enfin pour moi, de parler de cette corruption totale ou de la dépravation totale, comme on l'appelle autrement, ça mène à ce qu'on appelle l'incapacité totale, que l'homme est incapable par lui-même de venir à Dieu. Alors c'est humiliant de dire ça, peut-être que si vous entendez ça pour la première fois, vous dites, oh, c'est choquant. On doit réaliser que ça a choqué aussi les gens à qui Jésus en a parlé. Dans Jean 6, il parle de ça, et au verset 44, il dit, Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Au verset 65, il dit, Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Et si on y pense, c'est juste logique. Si l'être humain est totalement corrompu et incapable de venir à Dieu par lui-même, alors c'est Dieu qui doit prendre l'initiative. Et je sais pas si Maxime, tu veux compléter
Ouais. Bah
plus.
comme on le disait en voix off, ça aussi des avant l'enregistrement de l'épisode, ça a aussi des conséquences par rapport à notre prédication ou notre façon de parler aux gens. On faisait référence à ouais, tout ce qu'on peut entendre autour des prédications positivistes du type ouais, libère ton potentiel ou atteins ta destinée, mais qui semble, bah, en soi, ça peut être un message intéressant, mais dans un certain contexte, dans le contexte de l'évangile en fait. Mais autrement, si on parle à un homme dépravé et qu'on lui dit de libérer son potentiel, on va pas. Ou même des conseils du type écoute ton cœur. Voilà, toutes sortes de conseils, des slogans qui sont un peu dans notre culture ou même dans la culture évangélique, qui sont pas forcément pertinents en fait, qui sont même contraires directement à ce que la Bible enseigne par rapport à la dépravation de l'homme et qui peuvent être dangereux si on les appliquait vraiment. Si on libérait le potentiel d'un homme pécheur, ben on sait ce que ça donne du péché et rien d'autre.
Et c'est là où on doit vraiment, ça nous amène à dire, mais on doit vraiment être conscient de quel est le problème principal de l'être humain. Et vous êtes prêts pour 2 minutes de pub. pour une vie de défi. Donc le livre que j'ai écrit avec Nicolas Blocher, on veut justement, ça peut être, c'est un bon exemple parce qu'on a voulu, dans un sens, on a un discours qui pourrait être qualifié de positiviste. On dit aux jeunes, mais profitez de votre jeunesse. La jeunesse, c'est un temps privilégié de la vie, dans un sens, un potentiel qu'on a. On a du potentiel quand on est jeune. Mais si on s'arrêtait juste à là, à dire, vous êtes jeune, profitez de votre jeunesse, vous avez du potentiel, mais ce serait terrible parce que on ne règle pas le problème principal de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on a voulu, avec Nicolas, être très clair dans les premiers chapitres de ce livre, en disant, en montrant, en mettant en avant quel est le problème principal, c'est qu'on est pécheur face à Dieu. Et notre plus grand besoin, le plus grand besoin, c'est d'avoir un cœur qui est transformé par l'Évangile. C'est ça le défi qu'on doit relever le plus important. Et à partir de ça, on peut vivre une vie qui plaît à Dieu et commencer à libérer notre potentiel dans ce sens-là. Maintenant, je suis très lent à utiliser ce langage, libère ton potentiel, parce que comme tu dis, c'est tellement connoté à plein d'autres choses.
Ouais, je pense que ça a des implications aussi dans la façon dont on conçoit le progrès dans la vie chrétienne, parce que même si une fois qu'on est régénéré, la dépravation en quelque sorte est atteinte à sa racine, néanmoins il y a une doctrine qui l'accompagne et qui dit que le péché, je ne sais pas comment le formuler en français, le péché rémanent, le péché
Oui,
qui demeure en nous en
oui.
quelque sorte. Et c'est le fait que ben, même si on est régénéré, on a encore ce principe mauvais en nous, jusqu'au retour de Christ, jusqu'à notre résurrection en gloire. Et comprendre ça peut permettre d'éclairer des choses. Parfois, des chrétiens ont l'impression que quand on devient chrétien, on ne devrait plus pécher et comprennent pas pourquoi ils ont des mauvais désirs encore en eux. Alors qu'en fait, notre rôle, c'est de lutter contre ça et de reconnaître que cet ennemi est là, pas simplement comme celui qui nous a condamnés et pour lequel on a été justifié, mais aussi comme l'ennemi de notre âme aujourd'hui, quoi, le péché qui est en nous et qui ne va pas s'améliorer. Hein. Il n'y a rien qu'on peut améliorer dans la chair, elle doit juste être mise à mort. C'est comme ça que la Bible en parle, comme une crucifixion.
On peut grandir parce qu'on n'en est plus esclave, mais effectivement, on ne doit pas être surpris dans un sens de voir ça en nous.
C'est
Ça
ça.
nous amène jamais à le tolérer, mais
Mais du coup, on doit s'attendre en fait à une lutte perpétuelle. C'est pas quelque chose qui doit nous surprendre.
Et peut-être que ça implique aussi ça a des implications sur notre manière de présenter l'évangile, parce que je pense que souvent, je vois le danger de présenter l'évangile de manière où on montre où on met en avant le fait que les êtres humains sont victimes plutôt que coupables. On est victime du péché et pas coupable du péché. Alors que la réalité, c'est qu'on est coupable du péché. C'est ça notre problème. On a offensé Dieu, on a rejeté Dieu. Et donc la manière de présenter l'évangile, c'est pas de dire, ah, voilà ta situation, voilà ta vie, mais
Alors
voilà ce
que
que Dieu a
oui,
fait pour
pauvre
toi.
homme, tu es en train de te noyer.
Exactement, ouais. Et vraiment, c'est terrible ce qui t'arrive, etc. Oui, la condition de l'être humain est terrible, mais pourquoi? Parce qu'il a offensé Dieu, parce qu'il a fait ce qu'il n'aurait pas dû
Il est à
faire.
la fois victime et coupable en quelque sorte.
Oui, alors victime dans le sens où le péché a des conséquences et on peut être victime de ces conséquences-là, mais le péché en lui-même, on en est responsable. Et donc, ce qu'on a besoin de présenter, c'est mais repentez-vous et croyez en Christ.
Ouais, c'est là que je pense que ça devrait vraiment changer notre vision du monde aussi. Avoir une vision du monde où on reconnaît que tout être humain, depuis sa naissance, il est pécheur. Et que quelque part, toute l'humanité, depuis la chute, elle est sur une autoroute qui mène à l'enfer, en fait. Et que si Dieu n'intervient pas, bah, c'est là notre destinée. Éphésiens 2 parle de voilà, on était destiné à la colère de Dieu. Ouais, et donc, on va parler un peu des applications par rapport à l'élection et ce que ça veut
Ah,
dire pour
oui,
nous.
on peut en parler rapidement. Ben justement, j'y pensais là. On a fait un épisode sur le calvinisme. Et rapidement, en tout cas, si ça ne vous est pas convaincu à l'époque, l'épisode sur le calvinisme, réécoutez-le à la lumière de cette vérité. Ou plutôt, lisez sur ce sujet à la lumière de cette vérité. Savoir que ce n'est pas comme si Dieu avait une masse de victimes, comme tu disais, et qui, bon, ben, on ne sait pas pourquoi, il en choisit plutôt un que l'autre. C'est qu'il a une masse de rebelles et qu'il aurait pu les laisser continuer dans la direction dans laquelle ils vont et que. Souverainement, il prend le choix d'en sauver un certain nombre.
Exactement. Et que si, enfin, cette doctrine implique que si on avait attendu que l'initiative vienne de l'homme, on aurait pu attendre toute l'éternité, parce qu'elle ne serait jamais venue. Excellent. Bah, je pense que c'est une bonne discussion. On est à 18 minutes, mais c'est bien parce que hier, on a eu un retour de quelqu'un, d'une auditrice, qui nous disait que nos podcasts étaient trop courts. Du coup, on a pris la résolution d'être beaucoup plus long. Non, pas beaucoup plus long, mais un peu plus.
On va pas se stresser si on dépasse
Voilà.
15 minutes, quoi.
Exactement, c'est ça. Et donc, faites-nous des retours sur ce que vous pensez de la durée. On serait content de les avoir. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir enrichi cette discussion. Merci, Maxime.
De rien.
On va bientôt arrêter les podcasts pour aller visiter Bruxelles parce que Vanessa, la femme de Maxime, va s'impatienter qu'on enregistre d'autres podcasts. Et on se retrouve très bientôt. Vous pouvez suivre Maxime sur parlafoi.fr, un blog qui grandit à une vitesse incroyable. Et moi-même sur christetmavie.fr, un blog qui ne grandit pas du tout, mais que vous pouvez suivre quand même. À très bientôt, les amis.
À bientôt.